Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Magali Lagrange.
60 ans après les mots de défiance jetés à la face du général de Gaulle par Sékou Touré et le non du peuple guinéen à la communauté franco-africaine que proposait alors le chef de l'État français à ses colonies, que reste-t-il, Jean-Baptiste, de cette fronde, de cette bravoure dont peuvent s'inspirer aujourd'hui les jeunes générations?
Bien plus qu'une simple fronde ou que d'une quelconque bravoure, il s'agit d'abord de courage, du courage du peuple guinéen comme de celui presque suicidaire à l'époque de son leader Ahmed Sékou Touré. Ce double courage a eu un retentissement que vous ne pouvez imaginer, notamment au sein de la jeunesse et de l'intelligentsia. Nombre d'étudiants africains, de France notamment, avaient alors rejoint la Guinée ou étaient prêts à le faire pour se mettre au service de ce peuple qui suscitait l'admiration continentale. Justement parce qu'à ce moment précis, c'était Sékou Touré et son peuple qui étaient du bon côté de l'histoire. Mais leur courage a été perçu à Paris comme un crime que l'on a fait expier à la Guinée, en commençant par assécher la balbutiante administration guinéenne de l'essentiel de ses compétences. La France a non seulement retiré ses fonctionnaires de Guinée, mais aussi contraint certains Africains qui y servaient au titre de l'Afrique occidentale française à plier bagage. Le désastre était d'autant plus certain que le mode de colonisation français avait préparé le terrain à ce type de désastre.
En quoi la colonisation française peut-elle avoir préparé ce que vous qualifiez de désastre?
Il ne faut pas oublier que dans les colonies françaises d'Afrique, les rares commis africains dans l'administration étaient tous coiffés par des fonctionnaires français théoriquement indispensables à la bonne marche de l'administration. C'est d'ailleurs là la différence fondamentale entre la colonisation britannique et la colonisation française notamment. Le colonisateur français se voulait irremplaçable, tandis que les Anglais, eux, laissaient les peuples se gérer et même se gouverner tout seuls parce qu'ils n'étaient intéressés au fond que par l'exploitation des richesses des colonies. C'est ce que l'on a appelé l'indirect rule. L'encadrement français descendait jusqu'au plus petit niveau, tandis que les Anglais faisaient place à des cadres intermédiaires locaux. Ceci a d'ailleurs eu pour conséquence un affligeant décalage de niveau entre les dirigeants francophones et anglophones au moment des indépendances. Les élites politiques en Afrique francophone étaient en effet des instituteurs, des agents des postes, des syndicalistes pour la plupart, à l'exception notoire du grammairien Léopold Sédar Senghor, agrégé. Le niveau d'études le plus élevé que l'on pouvait noter parmi ceux qui ont conduit les francophones à l'indépendance est celui de ces médecins formés à Dakar, William Ponty, et que l'administration coloniale elle-même qualifiait avec condescendance de médecins africains, comme pour bien signifier qu'ils n'étaient pas vraiment médecins.
Et quel était le niveau des dirigeants des anciennes colonies britanniques d'Afrique?
Ils étaient pour beaucoup du niveau du doctorat, quelques économistes, un certain nombre de diplômés en sciences politiques, formés pour la plupart dans les meilleures universités britanniques ou américaines. Et en dessous, il y avait également quelques solides compétences. Retirer les fonctionnaires français de l'administration guinéenne était donc plus risqué que de priver l'administration ghanéenne, par exemple, des compétences anglaises. Mais Paris savait que c'était le plus sûr moyen de s'assurer de l'échec de la Guinée frondeuse. À René Dumont, qui disait que l'Afrique noire était mal partie, certains pouvaient aisément rétorquer que tout avait été fait pour qu'il en soit ainsi.
Mais on pourrait vous répondre, Jean-Baptiste, que l'Afrique ne cesse d'accuser l'ancien colonisateur.
Encore une fois, les anglophones n'accusent pas Londres autant que les francophones peuvent accuser Paris. La preuve qu'il y a quelque chose qui peut choquer, c'est que l'on en est encore, 60 ans après les indépendances, à débattre, ou plutôt à refuser de débattre, de la pertinence d'une monnaie chapeautée de fait par le trésor français, auprès de qui les États indépendants versent un pourcentage ahurissant de ce qu'ils tirent de leurs recettes d'exportation en contrepartie de la garantie que la France apporte à leur monnaie. Pas une seule ancienne colonie britannique ne vit ainsi. Elles assument toutes les conséquences de leurs erreurs et s'en sortent un peu moins mal que leurs frères francophones. Et de fait, c'est au nom de Sékou Touré que l'on pense lorsque l'on entend des artistes, des activistes, des intellectuels et une bonne partie de la jeunesse africaine dire non au franc CFA tel qu'il est conçu et fonctionne aujourd'hui.
Merci Jean-Baptiste Placa.